Okay, welcome to the Socialist Fight Forum. The forum is defend the Donbass, Russia and China are not imperialist powers.
Bon, je vais faire la traduction malgré la difficulté que j'ai avec la langue anglaise. Mais il donne la bienvenue au forum des Socialist Fight. Et on va parler donc des problèmes de Donbass, de l'Ukraine et de la lutte du peuple de Donbass.
We reject the position that Russia and China are imperialists. We say that the global hegemon, that the global hegemon imperialist power is the United States and its allies grouped around NATO, and there are no other imperialist powers other than those.
Nous défendons donc la position que ni la Chine ni la Russie ce sont des États impérialistes dans le sens marxiste du mot, et que le seul vrai impérialisme qui existe dans le monde, c'est l'impérialisme nord-américain et ses alliés occidentaux. Ça, c'est fondamental. Si on ne parle pas de ces principes-là, on confond tout.
We have listed eight tanks that make US imperialism the global hegemon. Number one in the list is the position in the world economy of the US dollar.
Nous avons donc rédigé donc 8 indices de preuves de la domination de l'impérialisme américain. Le premier, c'est la position dominante du dollar, que c'est la monnaie des transactions partout. Et dès qu'elle est menacée, les États-Unis rentrent en guerre contre les pays qui sont contre.
World trade, about 84% of world trade is conducted in dollars. In particular, the oil industry, the petrodollar, is the most powerful weapon at the disposal of the United States.
Plus de 84% de tout le commerce mondial se trouve dans les mains des États-Unis, et surtout ils contrôlent le pétrole, que c'est l'élément essentiel donc pour pouvoir contrôler le reste des économies.
With the fiat dollar, the United States can manipulate the economies of the entire world in collaboration with the International Monetary Fund and the World Bank.
La position dominante du dollar donc les permet de manipuler l'économie de tous les autres pays et à travers non seulement de leur domaine de la monnaie mais par des organismes comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.
When it prints dollars in economic easing as it's called, it devalues the dollar reserves that are held by other nations in the world, in particular by China, by Japan and Brazil.
Par le contrôle qu'ils ont donc de la monnaie, le dollar, donc, ils peuvent la faire dévaluer de façon à diminuer les réserves tant de la Chine comme le Brésil ou du Japon ou des autres. En réalité, de cette façon-là, ils payent, comme on dit en France, en monnaie échange.
This hegemony of the dollar, this great advantage of the dollar has been the cause of the war against Iraq, it was the cause of the war against Libya, and of course it is now the cause of the war against the threatened war against Russia over the issue of Ukraine.
Donc ainsi, la menace sur le dollar ou la défense du dollar ou tous ceux qui s'attaquent au dollar souffrent des conséquences des guerres comme ça a été le cas de l'Irak, de la Russie et Libya et d'autres pays.
Okay. After the question of the hegemony of the dollar as a world trading currency, there are a number of other very important questions that set the United States apart as a global hegemon. First of all, they contain all the world's leading financial centers. The U.S. stock exchanges, for instance, are based in Wall Street. Moscow, on a comparison, is number 73 in the world. And China's stock exchanges are somewhat higher. They're number 3, number 18, and number 49. China has 3 stock exchanges.
Maintenant, on va démontrer les autres conditions qui font que l'impérialisme nord-américain, c'est le principal ennemi des peuples du monde, de la classe ouvrière. Fondamentalement, ils ont leur domination de la finance internationale, dont la bourse de Wall Street, c'est la bourse principale du monde, de loin, de loin. La bourse de Moscou, il arrive dans la liste des bourses du monde en 73e position. Donc vous voyez très très bas. Et la Chine qui possède 3 bourses se trouve à la 3e, à la 18e et à la 14e place.
Of the top multinational companies and the global transnationals on the Forbes list of the top 2000, the United States has 564 of the top 2,000. And we should mention that a big number of the other companies that are not based in the United States, like up to half of the 17 of the top that are based in Ireland, are in fact U.S. multinationals that are based abroad for tax avoidance purposes.
Les États-Unis aussi possèdent la plupart des grandes multinationales du monde. D'un total de 2000 grandes multinationales, il y a la 164, excusez-moi, qui appartient aux États-Unis. Mais il y a un tas d'autres, dont les capitales américains et à l'intérieur, donc qui sont possédés en réalité de façon indirecte par les capitales nord-américaines. Beaucoup de transnationales donc sont basées à l'extérieur, mais sont des propriétés aussi de l'impérialisme nord-américain.
In comparison, China has 207, Russia has only got 30.
En comparaison, la Chine a 207 multinationales importantes et la Russie qui est 30. Donc une, la principale de ces 4 appartient par moitié à la base allemande.
Of the world's top stock exchanges, those that are based in the United States are equal to 7 times greater than the rest of the world put together.
Les échanges internationaux des actions, des stock exchanges des actions, les États-Unis disposent d'une supériorité de 7 fois par rapport à l'ensemble des autres pays.
To go through the rest of them for ranking by gross domestic product, the United States is far in advance of any. It is in fact twice the size of China for gross domestic product. But if you take a gross domestic product per capita, per head, China falls to number 93 in the world, and Russia is number 58 in the world.
Quand on a le PIB, les États-Unis font le double que la Chine. Mais si on prend le PIB par tête habitant, la Chine descend à la position 93 et la Russie à la position 58. Ça montre bien les équilibres et l'absurdité des gens qui comparent la puissance de la Russie et de la Chine à celle des États-Unis.
The three items that deal with the military power of the United States. The United States, its military expenditure in 2013 was $682 billion. That is equivalent of the next 14 nations combined. And you 16 nations are NATO powers. It's only China and Russia that are not NATO powers. So not at all. With its NATO allies, it has something approaching 90% of the military power of Russia and China.
Pour la puissance militaire, les Américains sont de loin les plus importants. Ils dépensent 682 milliards de dollars, qui correspond à la somme totale des 14 pays qui viennent après. Donc, de ces 14 pays, il y en a 12 qui appartiennent à l'alliance militaire pro-impérialiste de l'OTAN. Il ne reste que la Chine et la Russie, c'est différent. Et en fait, le bloc occidental militaire représente plus de 90% de toutes les dépenses de la force militaire dans le monde.
It has five major fleets. The second fleet is in the Atlantic, the third fleet in the Eastern Pacific, the fifth fleet in the Arabian Gulf and in the Indian Ocean, and the seventh fleet in the Western Pacific. It has 10 aircraft super carriers. No other nation has more than one, apart from Italy, which has two. Russia has one, and China has one, which is a second hand that they bought from the Ukraine.
Sur la puissance militaire et maritime des États-Unis, ils dominent le monde. Obama vient de déclarer qu'il domine le monde, comme les Anglais en 70 ans qui rule the waves. Il vient de le déclarer, il dispose de 10 porte-avions contre la arme de la Chine, qui en fait c'est un vieux porte-avions ukrainien qui a été acheté, et la Russie qui dispose d'un et qui ne se fait même pas vendre les Mistral que la France retient.
As to military bases, the United States has about 800 military bases throughout the world. With its NATO allies, that number is about 1,000. Russia has 5 military bases, all in former USSR countries. China has none at all.
Militaires à l'étranger, les États-Unis ils ont autour de 700 à 800 bases militaires à l'étranger avec ses alliés. Ça fait plus de 1000 bases en tout, dans la Russie comme la Chine. La Chine n'en a aucune base militaire à l'extérieur et la Russie, il lui reste 5 bases qui se trouvent dans des anciens pays ex-soviétiques, en fait, ce qui était à l'étranger.
Understand that balance of forces, to speak of Russia and China as imperialist countries is to equate two things that are totally that cannot be equated.
Alors, quand il y a des gens qui mettent dans le même plan l'impérialisme américain ou le bloc occidental en réalité avec la Chine et la Russie, ils sont en train de comparer deux forces qui sont totalement déséquilibrées, qui ne correspondent pas du tout à la même force, ni économique, ni militaire, ni aucune sorte. On ne veut pas donc mettre en vraie égalité entre quelques-uns qui parlent, de mon point de vue, complètement absurdement d'un impérialisme chinois ou russe.
Of course, both Russia and China would like to be imperialist powers, and both Russia and China have certain aspects of imperialism in their relationship with the world. But they cannot emerge as imperialist powers while the United States is the hegemon.
Tant la Chine comme la Russie, ils ont peut-être des velléités de devenir des impérialismes. Et ils ont certains traits dans leur politique qui peuvent apparaître comme des traits plus ou moins impérialistes. Mais ils ne pourront jamais devenir des puissances impérialistes d'importance tant que les États-Unis seront là et continueront la force qu'ils constituent. D'ailleurs, toute la politique des États-Unis, c'est justement destinée à contrer l'émergence de ces pays comme des puissances concurrentes aux États-Unis.
And now we come to the position in the Donbass. In the Donbass, there are extreme political positions that we have heard here at this debate, and that are generally expressed amongst the far left. The first political position is the position that's held by the NPA, and the NPA's position is straight support for US imperialism in its war against Russia in the Donbass. And a number of other political groups also take that position. The Workers' Liberty have that position. A number of other groups in Latin America, etc., say that Russia is the aggressor in the Ukraine, and the United States is assisting Ukraine to maintain its sovereignty and its self-determination.
Maintenant, on va parler du Donbass. Essentiellement, ici, dans ces forums-là, dans la fête, et un peu partout dans la gauche, tant française qu'internationale, on trouve trois positions très claires et très directement définies. La plus à droite, la plus pro-impérialiste, celle qui est représentée en France par les NPA. Vous êtes positionné dans tous les conflits, essentiellement aujourd'hui en Ukraine, en disant que le responsable de tout cela, ce serait l'impérialisme russe, et que les États-Unis sont seulement en train d'assister l'Ukraine afin de contrer soi-disant invasion de l'impérialisme russe.
The second political position is the position that's held by the Luzovere, and it's held by a number of other political currents on the left. And that is the position that was originally developed by Max Shachtman in 1939 against Trotsky. That is, neither Moscow nor Brussels, but the international working class. In our view, this is a complete cop-out, a failure to take any side in what is a war of aggression against the Ukraine, and a war of aggression ultimately against Russia and China.
La deuxième position, elle est représentée essentiellement, et c'est une position internationale comme les autres, d'ailleurs, qui traverse non seulement le mouvement trotskiste, il faut dire que ça aussi traverse les autres mouvements politiques, c'est une des caractéristiques de l'époque, que c'est de se mettre au milieu, quoi, de dire ni Washington, ni Moscou, comme les Max Shatman en 1939, c'était Émilie qui avait reçu la critique de Léon Trotsky dans le livre En défense du marxisme. En disant, dans l'un comme l'autre, on dort, et il se place dans une position au milieu en faisant assez souvent un appel à une classe ouvrière que pour eux c'est presque un fantasme qui n'a aucune réalité pratique réelle, et au fond, cette position-là, c'est une défense en direct de l'impérialisme, comme l'a signalé Léon Trotsky dans sa polémique avec Shatman.
You recognize this position of Shachtman as a halfway house, a movement torn to accommodating to imperialism. Eventually, of course, Max Shachtman supported the CIA in the Bay of Pigs invasion of Cuba, and his position on Russia and Moscow was dropped by the pilots over North Korea as straight imperialist propaganda.
Okay, well, cette position de Shachtman l'a fait diriger vers la droite complètement pour arriver à devenir un agent de la CIA. Même son discours, en se mettant au milieu, il a été bombardé par les avions américains en Corée comme une façon de propagande. En réalité, les positions de l'Amérique se dirigent rapidement vers la droite. L'expérience pratique de l'entre-contre. Sorry, je vais ajouter un peu cela, mais c'est le point des avancées.
The true revolutionary Trotskyist position, in our opinion, is the anti-imperialist United Front. By the anti-imperialist United Front, we mean that we give no political support to the leadership of the Ukraine or the Donbas. Sorry, of the Donbas. We give no political support to Putin, like we gave no political support to Gaddafi or to Syria. But we do say that against imperialism, you must form a united front, an anti-imperialist united front against the main aggressor, which is US and European imperialism.
Donc la position que Socialist Side défend est la position correcte, c'est la proposer un front uni anti-impérialiste contre l'ennemi principal de l'humanité, qui en ce moment c'est les États-Unis. Ce qui ne signifie pas donner aucun appui politique aux dictateurs en place, ou aux dirigeants du Donbass, ou à Poutine, ou à Assad, ou à Gaddafi, à aucun de ces gens-là. Mais dans les conditions d'une agression impérialiste caractérisée, comme c'est le cas de la Syrie, de la Libye, de l'Ukraine, c'est obligatoire pour un communiste de se placer contre l'agression impérialiste. Cela a été développé par Lénine quand une fois, et on lui a posé la question, il a dit dans le cadre d'une guerre entre la Grande-Bretagne et l'Inde féodale, c'était l'obligation des communistes de se placer à côté de l'Inde féodale, même si c'était l'Inde qui avait commencé la guerre. Trotsky l'a fait à trois reprises quand il a été à Addis Abeba, quand il a été l'agression italienne à Addis Abeba en Italie. Il l'a fait quand on l'a demandé quelle était sa position par rapport à la possibilité de guerre entre la Grande-Bretagne et Getúlio Vargas, qui était un dictateur au Brésil, mais surtout en Chine, où il a demandé aux membres de la 4e internationale de lutter à côté de Chiang Kai-shek, qui est un assassin des communistes, contre l'agression impérialiste japonaise.
Ok, il a mis un peu plus dans là que je voulais dire, mais that was my next point. So I will go on now to say that of course those Stalinists that oppose us and those Social Democrats, they say, well, you're just supporting Putin. You're just supporting reactionaries. You should be for the working class revolution. You cannot take this position. To that we say, and always and everywhere, the working class must maintain, via its revolutionary vanguard, via its revolutionary party, must maintain its own political independence. But at the same time, we always know who is the main enemy, who is the aggressor.
Bon, il y a des gens qui critiquent cette position-là dans un débat récent qui s'est produit ici, dont j'étais carrément déformé, ma pensée complètement. Il y a quelqu'un qui m'a accusé que je soutenais Poutine, ce qui est complètement faux. La politique du Front Uni anti-impérialiste signifie surtout mener une politique indépendante de la classe ouvrière, mais toujours reconnaître quel est l'ennemi principal et s'opposer à l'agression de l'ennemi principal. On marche séparé, on frappe ensemble, c'est une vieille tactique élémentaire. Malheureusement, c'est élémentaire. Quand j'avais 15 ans, j'ai appris cela et des Staliniens. Hein? Et tout cela a été outrageusement oublié pour présenter des opinions complètement pro-impérialistes.
If Lenin and the Bolsheviks understood in July of 1917 that Korniliov was the great danger and that a united front had to be formed with Kerensky against Korniliov, then I don't think that's too complicated a notion to be understood today in regard to the Donbass.
De la même façon, Lénine a proposé donc une sorte de front uni à Kerensky quand est venue la question de Korniliov. Ce sont des éléments historiques. Mais à un moment donné, il y a eu une contre-révolution armée militaire de la part de l'armée tsariste. qui a attaqué le gouvernement Kerensky, que les bolcheviques peuvent combattre. Et à ce moment, Lénine, très clairement, il a dit, on se met à côté du gouvernement Kerensky, mais on ne lui donne aucun appui politique. On ne donne pas un appui politique, on se met à côté pour combattre la réaction. Après, on lui réglera les comptes à Kerensky.
And I will finish with a little advertisement for our own publication, which sets out these things in detail, which is number 12 of the Ukraine, and in particular the article La agresión US en Ukraine y la Unifront Anti-Imperialista, which answers all those questions in a question and answer format, which answers all those questions in great detail.
Por fin, y vos propos donc la un article donc de cette revue-là qui vont traiter en profondeur toutes les questions qu'on vient de discuter, hein, qui sont importantes, fondamentales même, je dirais, pour la suite de la politique, parce que les problèmes internationaux vont se refléter finalement dans la politique nationale à un moment ou à un autre. Donc il recommande un article que c'est l'agression US à l'Ukraine et les Front Unis anti-impérialistes qui définit à peu près ce qu'on vient de exposer. Voilà, je pense que le débat est ouvert pour les gens qui
voudraient intervenir. Thank you. Questions.
En Ukraine. européenne, puisqu'ils doivent respecter la Convention européenne des droits fondamentaux. Voilà, alors si quelqu'un a l'intention de se rendre à Odessa et voudrait aider les familles de ces personnes assassinées, je peux vous donner les contacts.
Parce que j'avais été un peu surpris par l'attitude du thème. C'était donc la Russie et la Chine ne sont pas des pays impérialistes. Alors j'ai noté quand même qu'il y avait un infléchissement dans l'exposé, et je crois que c'est heureux, parce qu'il a été précisé que si, c'était quand même des pays impérialistes. Alors, il y a un passage assez long, je trouve, sur des chiffres qui effectivement démontrent des choses qui sont connues. Évidemment, le PIB de la Chine n'a pas encore, c'est pas pour demain non plus, hein, atteint celui des États-Unis, celui de la Russie est encore plus loin. Ça, ce sont des faits établis. Mais est-ce que ça veut dire pour autant, comme c'est écrit ici, que ce n'est pas des pays impérialistes, la Russie et la Chine? Je pense qu'il est vraiment pas judicieux, pas pertinent de conclure de la sorte. On peut par exemple citer le cas de la Russie en Tchétchénie, on peut parler de la manière dont la Chine parvient à exclure Taïwan de l'ONU, sa position sur les îles Spratlys. Il y a vraiment là ici des éléments qui traduisent à mon sens l'impérialisme. Et même si effectivement la Russie et la Chine n'ont pas la puissance militaire qu'a les États-Unis, on ne peut pas dédouaner pour autant ces pays de militaires impérialistes. Alors évidemment, il y a une gradation à mettre en place. Mais évidemment, je suis bien d'accord avec ça. Les États-Unis, c'est le premier impérialisme mondial. Mais il y en a d'autres qui sont concurrents. La Chine est un impérialisme de second ordre, la France de troisième ordre. Elle développe notamment son impérialisme en Afrique. Et la Russie peut-être de quatrième ordre. Pour conclure, je pense que la Russie a au moins conservé une base militaire hors de son ancien espace soviétique, c'est en Syrie. C'est une des raisons pour laquelle la Russie n'a pas voulu une intervention militaire en Syrie. Voilà. Je pense que la deuxième partie sur le Donbass était plus pertinente, et je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'introduire cette partie sur le Donbass par une sorte de mansuétude vis-à-vis des impérialismes russes et chinois qui sont moins puissants et qui ne sont pas moins négatifs à mon sens.
Yeah. déclaré la fin de l'histoire en 1991, vraiment ça que nous vivons maintenant, c'est la fin de la fin de l'histoire, ou du mythe de la fin de l'histoire.
Polonaise, elle s'étonne qu'en France on soit si qu'on soit si complaisant avec l'impérialisme américain. Ben, je crois qu'il y a une raison bien simple, c'est que la France est aussi un impérialisme beaucoup plus petit, mais qui est présent sur toute la surface du monde. Hein, que ce soit des anciennes colonies qui s'appellent maintenant autre chose, département, territoire d'outre-mer, que ce soit des bases comme ça sur des îlots dispersés un petit peu partout, la France est présente sur l'ensemble de la planète, comme les États-Unis à un niveau beaucoup plus bas, et ça explique que bah, les Français trouvent ça un peu normal. Les Français, pas tous, heureusement, enfin, beaucoup trop de Français, pas comme ça. Deuxième remarque, ce que disait monsieur à propos de la première partie de l'exposé, c'était peut-être pas indispensable, mais je pense que c'était utile quand même, moi j'ai appris des choses. Donc c'est peut-être aussi, même si ça ne pouvait pas la Chine et la Russie n'étaient pas des impérialismes. C'était bon de savoir de comment ça se situait, à la fois au niveau du PIB global, du PIB par terre. Voilà. Et je suis assez d'accord aussi avec une notion, ce qui concerne le fait que, même si effectivement la Chine et la Russie sont beaucoup moins envahissants que les Américains, ils ont quand même des velléités dont il faut quand même se méfier. Et quelque chose dont on n'a pas parlé, en tout cas, dans d'autres régions du monde, ce n'est pas la domination coloniale classique, c'est un néo-colonial. Comme la France n'est plus propriétaire de la Côte d'Ivoire et du Gabon, du Niger, mais elle continue à y avoir des intérêts industriels, miniers, pétroliers, etc.
Derrière Pol Pot pour la juste libération du peuple kurde. et finalement le prolétariat est toujours écrasé dans l'affaire. Donc le problème, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'on est toujours en train de soutenir une bourgeoisie opprimée contre l'impérialisme, mais finalement la classe ouvrière ne se bat jamais pour son compte. C'est ça qui me dérange.
Okay. To answer some of the points, on imperialism itself, what our 8 points tried to do was to give the whole picture. Of course, certain aspects of imperialism exist in both Russia and China, but you have to take the picture as a whole on its global manifestation.
Essentiellement, quand on a donné les 8 points qu'on a développés pour voir l'équilibre entre les puissances, c'est-à-dire pour voir l'équilibre en réalité entre les puissances, ce qu'on a voulu donner, c'est un ensemble pour combattre l'opinion que dans l'impérialisme, il y aurait un impérialisme chinois, un impérialisme. Mais c'est évident que dans la Chine, comme en Chine, il y a quelques aspects de velléité impérialiste.
Of course, it is true that both Russia and China wish to be imperialist powers, but if you take the Leninist definition of imperialism, which is the domination of finance capital over industrial capital and its alliance with the great transnational corporations, then there is one global hegemonic power that can do that, and that power is the United States.
Bien que la Chine comme la Russie, ils ont envie de devenir des puissances impérialistes, ce qui est défini pour un marxiste, pour un léniniste en 1916, l'impérialisme c'est justement l'exploitation des capitaux, c'est-à-dire la domination du capital financier sur le capital industriel. Et aujourd'hui, le seul pays qui est capable de dominer la planète entière d'un point de vue financier, c'est l'impérialisme nord-américain.
There are clearly conflicting interests between Anglo-American imperialism and Franco-German imperialism, as we see over the Ukraine. But ultimately, Victoria Nuland can say, fuck the EU, and still maintain diplomatic relations with Germany.
Évidemment, il y a des contradictions même entre l'impérialisme. Les plans de l'impérialisme anglo-américain ne sont pas les mêmes que celui de l'Allemagne et de la France.
Germany and France are subordinate imperialist powers to the United States.
L'impérialisme allemand, français, ce sont des impérialistes subordonnés à l'impérialisme nord-américain.
China and Russia are not subordinate in that way. They're not in the same block. They're not in the NATO block, and neither is Iran, and neither is Syria now.
Ni la Chine, ni la Russie se trouvent subordonnés à l'impérialisme nord-américain. On a notre bloc et ils sont différents. Ils ont des intérêts différents.
And for that reason, we have war and the threats of war to subordinate these countries to the global hegemony of Wall Street and its transnational corporations.
C'est pour cette raison qu'aujourd'hui on se trouve devant une situation de menace de guerre afin de subordonner ces deux pays-là à la finance internationale, à l'impérialisme nord-américain. Et aussi de les subordonner, parce qu'essentiellement l'impérialisme, quand on parle d'impérialisme américain, c'est le capital financier qui se trouve derrière les États-Unis. En fait, la corporation financière, comme on dit, un grand entreprise financière.
Of course, comrades are correct to point out that you must not either subordinate yourself to the national bourgeoisie in Russia or in China. The working class in these countries have to fight their own class struggles, but they have to fight it realizing that there is a bigger enemy than their own bourgeoisie.
Naturellement, on ne doit pas subordonner le mouvement ouvrier à la bourgeoisie russe ou aux bourgeoisies chinoises. On doit au contraire appuyer la lutte des peuples et des travailleurs de ces pays pour leurs propres droits. Mais surtout, on ne doit pas perdre de vue quel est l'ennemi principal, quel est le facteur principal dans la vie politique internationale, et celui-ci est de l'impérialisme nord-américain.
The version of the anti-imperialist United Front that was operated by the Comintern in China in 1927 and by all Stalinist parties after that demanded subordination of the forces of the working class to the national bourgeoisie on the basis of socialism in one country and on the basis of two-state revolution.
Donc, en Chine, en 1927, le front uni, il a été subordonné à la bourgeoisie. De cette façon, il a été conduit à la défaite. Cette politique, elle s'est développée pendant tout un siècle. Politique, des origines menshéviques, et qui a été plus ou moins développée par les partis dits communistes.
But the working class in the Donbass is in a far better situation than the working class under the Kiev domination. It can fight its battles with a confidence that it has inflicted one defeat, one particular defeat, the defeat of the Bolsheviks, on the imperialist back forces. And it will grow in confidence as further defeats are inflicted.
En passant sur le Donbass, la classe ouvrière du Donbass se trouve dans de meilleures situations que la classe ouvrière du côté de Kiev. Et à travers son combat, il a permis de faire une défaite très importante. Ça a été la lutte de Delbassev qui a donné un coup très important à l'agression pro-impérialiste conduite par les troupes oligarques fascistes de Kiev.
Of course, it must overthrow the reactionary nationalists that control the Donbass at the moment. We have in mind particularly the fate of the Morocco Union, which was imprisoned for a brief period and exiled from the Donbass, precisely because they sought to defend the interests of the working class.
La lutte contre l'impérialisme menée à bon terme, les révolutionnaires en Ukraine de l'Est, au Donbass, devront conduire leur lutte contre la bourgeoisie réactionnaire et nationaliste qui se trouve au pouvoir dans le Donbass. Excusez-moi, je ne vais pas complètement suivre, mais il a parlé de Borodba. Borodba, c'est une organisation marxiste qui travaille à l'intérieur de l'Est et de l'Ouest. Donc il y a eu des gens prisonniers, comme il y a des autres gens de gauche qui se trouvent, même il y a une brigade communiste dans le Donbass, etc. C'est-à-dire qu'il y a des forces de gauche qui se développent et nous devons appuyer.
The emergence of such forces gives us great confidence that the Donbass working class will be able to implement in practice Trotsky's theory of permanent revolution. That is, that it's only the working class can ultimately liberate the Donbass and can ultimately liberate the whole Ukraine and the whole of that region. But they must get the support of the Russian working class and the working class in the West to do that.
Les grands efforts de gauche à l'intérieur même du prolétariat du Donbass donnent espoir de que la... Je n'ai pas suivi, mais je crois qu'essentiellement que se développe une lutte pour un programme socialiste dans les pays du Donbass, que ça continue vers l'Ukraine de l'Est et même vers la Russie. L'émergence d'un pouvoir socialiste dans le Donbass pour l'émergence d'une force politique de gauche importante dans le Donbass va donner un espoir important. Si j'avance un programme socialiste, si j'avance un programme qui inclut tant l'Ukraine de l'Est comme l'Ukraine de l'Ouest, comme la Russie, il peut être un point d'appui très important pour toute l'Europe. Par contre, ça c'est ma partie, hein. Si les fascistes gagnent, alors on est couillés.
And we are waging this ideological conflict here together with others of similar mind in order to assist them to do that. Thank you.
De la même façon, nous sommes pour appuyer toutes les émotions de gauche et des partis de gauche qui tous ceux qui vont dans le même sens. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, je ne sais pas si on a le temps. Tant que nous n'arrêtons pas, la dame d'abord.
Moi, j'ai envie de répondre à votre question parce que pour moi, le problème, c'est que toute personne qui colporte des fables qui sont la propagande de Kiev, disant que les gens d'Odessa se sont brûlés tout seuls, c'est déjà un soutien au régime de Kiev. Ne rien faire pour défendre les gens emprisonnés ou assassinés en Ukraine par le régime de Kiev, c'est déjà soutenir le régime. Voilà, c'est ça, par rapport à la position de Kiev.
Absolument,
je voulais encore dire autre chose.
Absolument,